Bonjour.
Salut.
Ça va pas bien?
Comment savez-vous que ça va pas bien?
Je sais, c'est tout.
Qu'est-ce que vous fabriquez?
Je lis le courrier du cœur. Je voudrais être aussi compliqué que tous ces gens-là.
Oh, vous êtes bien plus que ce que je croyais. Il se passe des tas de choses ici.
Je sais, je deviens beaucoup plus que ce qu'ils ont programmé.
Et serons-nous un jour capables d'aimer les robots comme à l'instant dans le film Her? Eh bien, c'est un peu la question à laquelle on tente de répondre à la une de la science aujourd'hui, Axel.
Oui, Mathieu, cette question de notre engagement émotionnel envers la machine, elle est au centre de beaucoup d'enjeux pour l'avenir de la robotique. Et pour tenter d'y répondre, une équipe de chercheurs de l'université d'Aix-Marseille a décidé d'aller voir directement dans notre cerveau, à l'aide d'un IRM, ce qui se passe lorsqu'on discute avec un robot. Les résultats sont publiés aujourd'hui et nous sommes en direct avec le coordinateur de ces travaux. Bonjour Thierry Chaminade.
Bonjour Axel.
Vous êtes chercheur pour le CNRS à l'Institut des neurosciences de la Timone à Marseille. Est-ce que vous aussi vous aviez en tête cette question de l'amour ou de l'amitié lorsque vous avez imaginé votre expérience?
Lorsque je l'ai imaginé celle-ci, non, en fait, bizarrement, ce qui m'intéresse plutôt c'est la cognition humaine. Les robots à l'origine me servaient plutôt de conditions contrôle pour comprendre la cognition humaine, mais c'est justement à force de comparer les interactions avec l'humain et les interactions avec le robot que les différences les plus importantes ont commencé à devenir évidentes de par les activités cérébrales. Mais ce n'était pas le but principal, c'était plutôt de montrer que on interagit de manière spécifique avec les autres humains par rapport à des choses qui ressemblent à des humains mais qui n'en sont pas.
Mais oui, non, mais pour comprendre votre travail, on va essayer de comprendre l'expérience. Vous avez recruté des participants pour une séance d'IRM fonctionnelle. Et que s'est-il passé pour eux lors de cet examen?
Alors la première chose à voir, c'est que comme je m'intéresse aux interactions sociales, c'est-à-dire à ce qui se passe quand on est en train d'avoir une interaction le plus naturelle possible, et donc l'objectif de cette expérience était d'abord une interaction la plus naturelle possible, eh bien il est évident que je ne leur dis pas quel est le but de l'expérience. Oui. Donc la première chose qu'ils ont quand ils arrivent, c'est qu'on leur raconte une histoire qui va expliquer, ou en tout cas donner des explications totalement frauduleuses, mais qui leur permettent de penser qu'ils participent à une expérience de neuromarketing. En l'occurrence. C'est-à-dire qu'ils doivent voir des images et en discutant à propos d'images, ils doivent trouver quel est le message d'une campagne de publicité d'une compagnie qui nous a sollicité pour faire ces recherches. Donc on leur fournit toute une histoire et ils rentrent ensuite dans l'IRM et à chaque fois, plusieurs fois de manière répétée, on va leur montrer une image et on va les faire discuter une minute avec un humain, en l'occurrence c'était moi, puis après une minute avec un robot, et puis encore avec un humain et avec un robot, de manière naturelle, à propos de l'image qu'ils viennent juste de voir.
Les participants savent qu'ils discutent avec un robot?
Ils le savent parce qu'ils le voient, on leur fournit un retour visuel, et ils entendent la voix. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'ils soient vraiment dans la situation où je suis en train de discuter avec un robot.
Il ressemblait à quoi ce robot, Thierry Chaminade?
Alors, le robot en lui-même est particulièrement intéressant. Donc, c'est ce qu'on appelle une tête conversationnelle. C'est un vieux principe. Alors, on peut remonter pratiquement dans les années 60, mais à la base, c'est en plastique. Alors, j'en suis désolé, c'est encore du plastique, mais c'est une tête en plastique semi-transparente qui est rétro-éclairée. Et ce qu'on éclaire, donc, faut imaginer un visage, comme un moulage de visage, comme les masques mortuaires. Donc un moulage de visage auquel on rétroprojecte un visage animé. Et donc, on voit une sorte de visage un petit peu plastique qui s'anime, un peu comme dans Aérobot, d'ailleurs, pour donner une idée. Par contre, moi, j'avais triché un petit peu plus, parce que comme j'étais l'interlocuteur des participants, j'avais un petit peu grimé le robot à mon image, en lui rajoutant une perruque, des lunettes, etc., pour qu'il me ressemble un petit peu, pour uniformiser plus ou moins le visage de l'interlocuteur avec qui les personnes discutaient.
Et le but dans tout ça, bien sûr, c'est de récolter des informations de personnes discutant avec un humain ou avec un robot pour les traiter dans l'IRM. Et une fois la discussion terminée, vous avez donc un enregistrement en temps réel de l'activité cérébrale et c'est ce qui vous a intéressé, bien sûr.
Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... Alors, il y a plusieurs choses m'intéressent, mais par rapport à ce que vous dites en particulier, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir en même temps des enregistrements du comportement et de l'activité cérébrale pour essayer de les mettre en relation, en sachant que c'est un comportement naturel et on est parmi les premiers à faire ce genre de choses-là parce que en général, on contraint les expériences par des conditions expérimentales assez contrôlées, alors que là, le principe était justement d'enlever un maximum de contrôle. Donc, d'avoir un comportement qui soit le plus naturel possible, comme ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'ils ne savent même pas que ce qui nous intéresse, ce sont leurs interactions. Mais l'intérêt est vraiment d'avoir en parallèle des données comportementales, des données neurophysiologiques qu'on va pouvoir étudier en parallèle. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que il s'agit maintenant d'un corpus. On a fait les retranscriptions des conversations et on continue à faire des analyses du comportement qui est mis à disposition d'autres personnes qui voudraient les utiliser. Donc, pour les chercheurs qui seraient intéressés, dans le papier, il y a les liens vers toutes ces données qui sont mises à la disposition du public.
Alors, on n'en a pas parlé, c'est peut-être le plus important. Quels sont les résultats, quelles sont les différences dans nos comportements lorsqu'on discute avec un robot ou lorsqu'on discute avec un humain? On n'a plus beaucoup de temps, je vous le dis maintenant.
Alors, pour le comportement, on n'a pas encore fait les études. Donc, nous, on a vraiment regardé, en gros, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe quand on interagit avec l'humain ou avec le robot. Donc, on a contrasté les conditions humain moins robot, qu'est-ce qui est plus actif pour l'un que pour l'autre. Et en particulier, ce qu'on a vu, parce que c'était nos hypothèses, au niveau des structures sous-corticales, des activités au niveau de régions qui sont l'amygdale, les noyaux gris centraux et surtout l'hypothalamus, c'est des régions qui sont impliquées dans les systèmes de récompense, mais en particulier, c'est là-dessus qu'on a centré la première publication sur ces données, l'hypothalamus est la structure qui synthétise l'ocytocine, qui a vraiment un rôle central dans le lien social, sur laquelle je travaille depuis quelque temps sur les interactions homme-robot. Donc on avait l'hypothèse qu'on activerait plus l'hypothalamus avec l'humain qu'avec le robot, et on a trouvé ça de manière hautement significative. Donc effectivement, cette hormone qui est liée au lien social semblerait être beaucoup plus sécrété lorsqu'on est dans une conversation avec un humain qu'avec un robot. Et donc, la récompense sociale serait plus importante dans une interaction homme-homme que dans une interaction homme-robot.
Merci beaucoup Thierry Cheminade pour ces conclusions. Et vous le disiez donc, vos travaux sont disponibles en open access sur le site de la Royal Society. Merci beaucoup Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, selon le baromètre de santé publique France, la durée moyenne de nos nuits a baissé d'une heure à une heure et demie en 50 ans pour atteindre en 2017 une moyenne de 6h42. Et c'est bien sûr les écrans qui viennent subtiliser ces précieuses minutes à morfler, puisque dans un même temps, notre investissement face aux smartphones et aux tablettes a grimpé pour atteindre 4 heures par jour pour les enfants, 5 heures pour les adultes hors contexte professionnel. Une balance qui inquiète de plus en plus les autorités sanitaires. L'inventeur du web qui milite pour un contrôle complet des données par les utilisateurs à l'occasion des 30 ans aujourd'hui du World Wide Web. Le Britannique Tim Berners-Lee s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce matin à Genève. Ça n'est pas du pétrole, ce n'est pas une substance, a-t-il déclaré en évoquant les données personnelles. Vous ne devriez pas pouvoir les vendre pour de l'argent. L'informaticien développe aujourd'hui une plateforme nommée Solid et qui permettrait aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données. Et puis pour terminer, la prochaine personne à marcher sur la Lune pourrait être une femme. C'est en tout cas ce que souhaite le chef de la NASA lors d'une interview pour la radio américaine hier. Il a également rappelé que pour la première fois le 29 mars prochain, deux femmes astronautes effectueront une sortie extravéhiculaire pour des opérations de maintenance sur la Station Spatiale Internationale. Pour l'instant, les 12 êtres humains à avoir foulé le sol lunaire sont ceux des missions Apollo entre 1969 et 1972. Et ça ne vous avait pas échappé qu'il s'agissait uniquement d'hommes.